fait, le corps a des capacités de réparation extraordinaires. Souvent, on l'oublie. Alors, évidemment, quand on se coupe un petit morceau de doigt, on se dit ça va se réparer. Mais en fait, même à l'intérieur de notre corps, tout se répare, à condition d'apporter les éléments matières qui sont fondamentaux à la réparation.
La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix.
Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres, et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le-moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Pourquoi, lorsque l'on évoque les thérapies alternatives, cela nous renvoie à des notions d'énergie, d'ondes, de vibrations ? Bref, autant d'éléments qui paraissent peu tangibles. C'est la question que soulève aujourd'hui mon invité. Marc Dauphinroy est lithothérapeute et il aborde son métier avec un angle vraiment singulier qui va à l'encontre du discours convenu sur le pouvoir des pierres. Ce cartésien, il a été informaticien, c'est pour dire, se passionne désormais pour ce qu'il appelle la chimie naturelle, une approche scientifique qui défend l'idée que nous devons réenvisager notre santé de façon plus réaliste, plus simple, pour en redevenir pleinement acteur. Alors si vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle dimension de ces thérapies, pragmatiques et pleines de bon sens, vous allez aimer cet épisode très éclairant. Avec Marc, nous allons parler de télécommande, et pas n'importe laquelle, de changement de vie simple comme une évidence, et de la fatalité qui n'en est pas toujours une. Bonjour Marc, bienvenue dans La Petite Voix. Aujourd'hui, on va parler avec vous de lithothérapie. Vous allez nous parler de votre parcours et de ce métier qui a trait aux pierres et aux minéraux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît?
Oui, bonjour Hermeline. Donc, je m'appelle Marc Dauphinroy. Je viens d'avoir juste 52 ans.
Bon anniversaire alors.
Merci. Et donc, je vis dans le Haut-Beaujolais, donc qui est à peu près à une heure et quart au nord-ouest de Lyon. Et je voudrais préciser, en fait, par rapport à la lithothérapie, en fait, je suis expert en chimie naturelle du corps humain.
Donc, avant de revenir sur ce qu'est la lithothérapie, ça m'intéresse d'en savoir plus sur la manière dont vous en êtes venu à pratiquer ce métier-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel a été votre parcours, hein ?
Alors, je suis originaire de Champagne, et puis j'ai fait mes études à Reims, et donc pour être diplômé en informatique de gestion. Après, donc, je suis arrivé dans la région lyonnaise dans les années 90, et j'ai eu une activité professionnelle de l'ordre de 25 ans en informatique, dans un grand groupe informatique, l'informatique internationale.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce grand groupe informatique, on peut avoir son nom ?
C'était le groupe Adeco.
Ok.
Donc où j'étais architecte système.
Mais donc 25 années dans l'informatique, ça fait quoi de quel âge à quel âge en gros ?
De 20 à 45.
D'accord. Et alors que s'est-il passé pour que peut-être vers la crise de la quarantaine, vous commenciez à vous intéresser à autre chose qu'à l'informatique?
Alors, ça a commencé un peu plus tôt, même ça a commencé, on pourrait dire, presque au moment du bug de l'an 2000.
D'accord, il y a un lien.
Où j'ai eu une prise de conscience, en fait, concernant ma vie, c'est-à-dire où suis-je, que fais-je, etc. Où je me suis posé des dizaines, des centaines de questions, des petites questions très très simples, mais qui en fait on n'a pas toujours les réponses d'une façon évidente. Et donc j'ai commencé à chercher dans plein de domaines. J'ai commencé à pratiquer le tai chi, le qigong.
Vous aviez quel âge approximativement à l'époque?
36.
D'accord.
Et donc je suis rentré dans une démarche de développement personnel où je me suis intéressé un petit peu au bouddhisme, au taoïsme. Et puis donc j'ai aussi pratiqué le reiki, et c'est par le reiki en fait que je suis arrivé aux minéraux.
Ah, donc il y a eu quand même un chemin de développement personnel, comme vous le dites, pendant plusieurs années, vous avez testé plusieurs approches, et un jour, vous rencontrez la lithothérapie. De quelle manière ?
Mon maître Reiki, en fait, un jour, elle nous a dit qu'on pouvait effectivement travailler avec les minéraux. Et en fait, il me manquait une dimension, c'est-à-dire que pour moi, les minéraux, avant tout, ce sont de la matière. J'étais pas convaincu par l'approche purement énergétique des minéraux. Et j'ai rencontré donc Philippe Perrobino, donc qui était le créateur de la boutique de minéraux à Lyon-Saint-Jean, qui était une très grosse boutique de minéraux, qui m'a expliqué que effectivement il y avait d'autres choses à comprendre. Et à l'époque, en 2000, donc c'était en 2004, il proposait une formation de 200, un peu plus de 200 heures,
Quand même, ouais, assez
voilà,
conséquente.
qui s'appelait STAM, donc STAM,
Est-ce que c'est...
Système Transversal d'Action des Minéraux.
Voilà, donc on voit bien qu'on est effectivement sur une approche assez scientifique du sujet.
Voilà, tout à fait. Donc, qui permettait d'aborder en fait tout un ensemble de choses, aussi bien sur la géologie, la genèse des minéraux, la composition des minéraux sur un plan atomique, de la physique, de la chimie, de l'anatomie, de la physiologie, etc. Essayer de rapprocher en fait le lien entre géologie et biologie.
Donc pour l'informaticien cartésien que vous étiez à l'époque, vous aviez là une voie intéressante de développement personnel, mais avec des réponses plutôt cartésiennes, c'est ça?
Oui, et pourtant l'informatique n'est pas obligatoirement cartésien.
Ah, alors là, ce serait un autre sujet à aborder, mais intéressant. Mais ça veut dire que cette formation, donc 200 heures, c'est assez conséquent. Vous avez pu la suivre en parallèle du métier que vous continuiez à exercer chez Adecco?
Oui, bien sûr. Donc je l'ai effectué sur 2 années.
Ah, c'est ça, vous l'avez lissé sur un
Voilà.
temps un peu long.
Sur des
D'accord.
week-ends et puis des semaines complètes. Donc entre 2005 et 2007. Et c'est vrai que cette démarche, elle me parlait énormément et m'intéressait. Donc j'ai continué à garder contact avec Philippe Perrobino et à participer aussi à sa démarche jusqu'en 2012 où il a révélé en fait la chimie naturelle du corps humain qui explique en fait le lien vraiment entre géologie, composition de la matière, donc les pierres, et notre composition de la matière aussi et le fonctionnement au niveau des métabolismes.
Lorsque vous dites qu'il a révélé la chimie naturelle, c'est quoi? C'est une étude qu'il a menée pendant de longues années et il a révélé les résultats et ça a permis d'apporter vraiment des nouvelles connaissances et une nouvelle compréhension du fonctionnement du corps humain à travers sa chimie, c'est ça?
En fait, effectivement, Philippe et moi, on est reparti en fait des connaissances qui sont à la fois très anciennes. Par exemple, on s'appuie sur Lavoisier, qui est un des découvreurs de la chimie moderne, classification périodique des éléments, qui est l'ensemble des atomes connus sur cette planète. Et donc, voilà, c'est tout un ensemble de connaissances, de mises en lien, et puis aussi sur des données, sur des thèses très récentes de médecine et de recherche fondamentale.
Et donc là, ce travail-là, vous l'avez mené avec lui, en plus de vos activités toujours d'informaticien.
Voilà, tout en sachant que lui, il travaillait à plein temps sur ce projet. Puis bon, moi, j'apportais mes éléments de compréhension ou ne serait-ce que lui poser des questions,
Oui.
ce qui fait que ça dynamisait en fait sa recherche.
D'accord. Donc vraiment, là, vous commenciez à mettre plus qu'un pied dans ce sujet et à vous y intéresser plus que sérieusement, mais... À quel moment vous vous êtes dit là, il faut que j'en fasse, faut que j'arrête d'être informaticien et je me lance?
Alors, ça faisait déjà un certain nombre d'années où je me disais, j'ai autre chose à faire que de l'informatique. Il y avait quelque chose qui me disait, pas tu perds ton temps, mais tu as peut-être d'autres choses à faire. J'avais effectivement, je faisais du Reiki, je faisais de la méditation, je faisais du Qigong. Et je savais pas vers quoi j'allais m'orienter. Jusqu'en 2012, enfin, où en fait, c'était devenu une évidence pour moi qu'il fallait que je passe à autre chose. Donc je suis allé voir le DRH de ma société et je lui ai dit ben j'aimerais arrêter l'aventure chez Adecco. Donc ça s'est soldé par une rupture conventionnelle, donc quelque chose de relativement correct. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que j'allais faire.
Ah mais donc vous avez décidé de partir sans que le projet soit encore hyper clair.
Ah, complètement.
Vous
J'avais
étiez
dit.
appelé ailleurs, mais sans savoir encore tout à fait où.
Voilà, tout à fait. C'était une
Waouh.
évidence qu'il fallait que j'arrête l'informatique pour passer à autre chose, mais je ne savais pas quoi.
Est-ce que ça a été accompagné de certaines peurs ou certains doutes? Parce que quand même partir sans savoir où, quitter une situation confortable de salarié. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur?
Alors, c'est vrai qu'on a la chance de vivre en France et que en France, on ne se retrouve pas du jour au lendemain sans aucun revenu.
Eh
Ça permettait d'avoir une période de jonction.
oui.
Et puis je savais que les choses allaient se débloquer, que j'allais avoir des panneaux sur ma route, que la vie allait m'orienter pour me dire essaye de faire ça, ou etc.
Donc à la fois, vous n'étiez pas sans filet.
Et en plus, vous aviez cette confiance vraiment ancrée en vous que vous étiez sur le bon chemin, donc les choses allaient se débloquer si elles, comme ça devait se faire, quoi, c'est ça?
Voilà, mes anciens collègues de travail me disaient que j'étais complètement fou. Ils ont essayé de me transmettre des peurs, en fait, qui
Leur
existaient
peur.
en eux, mais moi, qui m'ont absolument pas atteint. Et je disais, j'ai donné la télécommande de ma vie à ma vie.
Ah, génial, d'accord. Plutôt que d'être comme un automate et de suivre un chemin parfois un peu tout écrit, là, c'est la vie où vous
Voilà.
menez là où elle sentait que c'était OK pour vous, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Et puis c'était une évidence, c'est-à-dire que je me disais, ben, ça va bien se passer. J'avais une totale confiance.
Et alors, est-ce que ça s'est bien passé?
Ben, tout à fait, bien
Donc
passé.
2012, vous quittez Adecco. À quel moment votre projet est plus clair et vous décidez de vous lancer et...
Alors en juillet 2012, je quitte Adecco. Et en fait, la vie s'organise, parce que je crois beaucoup à cette notion, la vie s'organise pour que nos chemins de vie entre Philippe et moi, en fait, se rapprochent.
À nouveau, vous vous retrouvez. Alors, j'imagine que vous ne vous étiez jamais perdu de vue,
Voilà.
mais là, un projet émerge, c'est ça?
Voilà, on va dire que la vie nous a rapprochés, et il m'a posé la question, il m'a dit, mais tu vas faire quoi? Et je lui ai dit, bah écoute, ce qui serait bien, c'est qu'on travaille ensemble et qu'on développe ensemble tout cet ensemble de connaissances qui, à mon point de vue, est complètement phénoménal et apporte une compréhension de la vie, de la santé, d'énormément de choses, jusqu'au jardinage.
Mais vous, a priori, quand même, bah, vous avez focalisé votre travail sur les humains.
Voilà, c'est-à-dire que notre orientation, notre champ de compétences, il est effectivement très orienté par rapport à la santé humaine, puisque en fait, il y a quand même beaucoup de choses à dire ou à redire et à réexpliquer. Alors, nous ne sommes pas médecins, et donc ce discours a beaucoup de mal à être entendu, parce que c'est d'une simplicité déconcertante.
Alors justement, allons-y dans ce discours, vous allez nous expliquer mieux en quoi consiste votre travail aujourd'hui et surtout quels sont ses fondements parce que j'entends là que vous avez développé quand même une approche qui vous est propre. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je crois qu'on appelle ça, vous appelez ça la chimie naturelle.
La chimie, en fait, est vraiment l'outil qui permet de lire la matière et de voir comment elle se transforme. À l'époque, les médecins se sont rendus compte que ben, le corps était composé principalement de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, et puis d'azote, de soufre. Donc ces éléments, en fait, font partie de, quand on reprend le tableau de Mendeleïev, hein, de la classification périodique des
Oui.
éléments, on retrouve une famille qui s'appelle les non-métaux, puis une très très grande famille où ce sont les métaux. En fait, pour la chimie naturelle du corps humain, les métaux, ce sont eux qui font fonctionner nos métabolismes. Tout le monde sait que le fer, en fait, transporte l'oxygène.
Oui, et effectivement, on peut avoir des carences en fer ou
Tout à fait. Et donc, on peut avoir un dysfonctionnement.
Ouais.
On peut avoir la bonne quantité, mais que ça peut être pas au bon endroit, ou que c'est pas suffisamment efficient, pas suffisamment opérant. Par exemple, pour le fer, on accuse le fer en cas d'anémie, donc on
Oui,
mesure le fer
c'est
dans le sang.
vrai,
Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le soufre est très très important aussi
Ah,
dans le sang.
d'accord. Mais est-ce que malgré tout, on peut vous présenter comme lithothérapeute ou c'est un raccourci vraiment trop rapide?
Alors, effectivement, la lithothérapie, en fait, est une réponse par rapport à l'ensemble de ces connaissances, c'est-à-dire qu'au même titre, quand on mange des aliments, nous absorbons en priorité des atomes. Donc, la lithothérapie est une façon de capter des éléments. Quand on pose des pierres sur notre peau et des éléments chimiques et atomiques qui
Oui.
sont indispensables à nos métabolismes.
D'accord. Bon, maintenant qu'on a saisi les grandes lignes de votre approche de chimie naturelle en revisitant pour moi certains cours de sciences nat, ça me ramène quelques années en arrière. Comment concrètement est-ce que vous accompagnez des personnes qui viennent vous consulter?
Effectivement, il y a toute une démarche, toute une compréhension, c'est-à-dire que nous sommes notre chimie, puisqu'en fait, notre système hormonal, notre système nerveux ou notre système locomoteur, etc., tout ça, c'est de la chimie. Donc nous sommes notre chimie et nous sommes aussi le résultat de notre chimie passée. C'est-à-dire que si aujourd'hui on rencontre des dysfonctionnements,
Ouais.
c'est-à-dire qu'une pathologie ou une maladie, c'est un dysfonctionnement dans la matière. Alors on peut l'englober dans une globalité, bien évidemment. Mais une tendinite, par exemple, c'est un dysfonctionnement du tendon. Alors, pour une tendinite, si c'est ponctuel, si c'est une tendinite parce que j'ai trop joué au tennis, ça va. Mais si j'ai des tendinites à répétition dans toutes les articulations, etc., il y a une autre compréhension à avoir. C'est-à-dire, nous, on est vraiment dans une démarche d'autonomie. On veut réexpliquer, puisque ces choses sont relativement simples. Donc, l'idée, c'est d'expliquer ces choses-là pour que les gens reprennent de l'autonomie et de la responsabilité par rapport à leur santé.
On revient à l'histoire de la télécommande. Vous redonnez aux gens la télécommande de leur corps, c'est ça?
Voilà. Alors après, il faut qu'ils le décident. Hein.
Bien sûr. Quand on fait la démarche de venir vous voir, c'est que déjà, on est dans une démarche active pour régler une problématique.
C'est pas toujours aussi évident
que
ça.
Oui.
Hein. Des fois, il y a des gens que je rencontre quelques mois plus tard ou un an ou deux plus tard, où je leur dis alors, ils m'ont dit qu'ils n'avaient toujours pas fait les recommandations que j'aurais proposées. Vous savez, la notion de pathologie, la notion de maladie, c'est quelque chose de très très complexe sur un plan psychologique. On se rend compte que même si on donne les clés de compréhension et les clés d'action à quelqu'un, peut-être que cette maladie ou cette pathologie, cette personne s'en sert pour plein de choses, hein, par rapport à ses proches, qu'il a le droit de se plaindre, etc. Les gens s'occupent de lui.
Elle a peut-être s'identifié à cette maladie-là, en fait. Ouais.
Tout à fait. Donc c'est pas une évidence. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début on comprenait pas trop en disant mais pourquoi cette personne ne fait pas ceci ou ne fait pas cela, puisque c'est surtout que ce qu'on propose c'est quelque chose de très très simple et on se disait mais pourquoi ces personnes-là ne font pas nos préconisations. Et donc c'est vrai qu'après réflexion on a essayé de comprendre et c'est des choses qui font partie de la psychologie humaine. Hein,
c'est ça. Et là, effectivement, ça ne tient qu'à eux d'être acteurs. Mais pour les autres, alors, parlons de ceux qui véritablement sont dans cette démarche active de recherche de solutions pour une problématique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de cas de figure dans lequel on vient vous voir et de comment vous, ensuite, vous pouvez accompagner?
Alors, ça se passe sous forme d'entretien. Alors, soit des entretiens en présentiel ou par Skype ou par téléphone.
Ouais.
Où en fait, il y a une phase connaître. Hein. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de connaître un peu le passé de la personne.
Oui.
Alors, on peut remonter, suivant les cas, on peut remonter jusqu'à à partir de la procréation. Hein. Et de la procréation et de la gestation.
Sur quel type de cas on a besoin de remonter si loin dans l'histoire de la personne?
Sur des pathologies relativement lourdes, en lien avec le système neurovégétatif, etc., où en fait, le système neurovégétatif, les enjeux de la fabrication, c'est à ce niveau-là, c'est pratiquement les 28 premiers jours de la procréation.
Ah, donc vraiment la vie ultra-embryonnaire.
Voilà, tout à fait. Et puis on déroule, par exemple, comment s'est passée la naissance, qui est un enjeu, est un enjeu chimique monumental. Comment s'est passée la petite enfance?
Ouais.
Donc, il y a eu des problématiques. Est-ce que la croissance s'est bien passée? Est-ce qu'il y a eu des diverses problématiques de diabète ou des problèmes de peau? Puis la vie émotionnelle aussi.
Oui.
Les déménagements, par exemple. Quand on est enfant et qu'on déménage. Alors, ça paraît des événements de la vie qui peuvent paraître simples, mais il peut y avoir des cas où un déménagement, en fait, provoque un bouleversement.
Un choc émotionnel, quoi.
Complètement, tout à fait.
Qui, chimiquement, va agir sur les cellules de la personne.
Voilà, et sur ses métabolismes.
Donc là, en gros, cette première phase qui est une phase un peu d'audit, vous menez l'enquête pour mieux connaître l'histoire de la personne, l'histoire émotionnelle et physique. Et ensuite?
Et bien ensuite, alors évidemment, pour une tendinite, je reprends l'exemple de la tendinite, on va pas investiguer autant.
Bien sûr.
Pour des problématiques plus lourdes, du style diabète, etc., on va essayer de faire toucher du doigt, en fait.
Oui.
Faire toucher du doigt la personne, qu'il y a eu une succession d'événements. Par exemple, la notion des dents. Les dents, c'est quelque chose de très très important pour notre santé. Et donc, comment s'est passée la petite enfance par rapport aux dents, les dents de lait, etc. À partir de quel moment il y a eu des réparations sous forme d'amalgame? On sait que les amalgames sont aussi des éléments où, sur un plan atomique, on se retrouve avec du plomb et du mercure. Donc, qui sont pas vraiment compatibles avec la chimie du vivant. Donc voilà, on a eu des cas, par exemple, où il y a eu une dame qui avait eu des plombages sur des dents de lait à l'âge de 7 ans. Elle était intoxiquée aux métaux lourds, etc.
Et du coup, elle avait quoi comme problématique de santé?
Des problèmes d'ordre psychologique, neurovégétatif.
Et comment vous êtes intervenu? Donc là, vous avez posé un diagnostic, j'aime pas le mot parce que c'est trop médical, mais vous avez trouvé une réponse à l'origine de sa problématique. Mais ensuite, que se passe-t-il?
Eh ben, on peut lui proposer des minéraux qui vont permettre de l'aider. Parce que, en fait, le corps a des capacités de réparation extraordinaires. Souvent, on l'oublie. Alors, évidemment, quand on se coupe un petit morceau de doigt, on se dit, ça va se réparer. Mais en fait, même à l'intérieur de notre corps, tout se répare, à condition d'apporter les éléments matières qui sont fondamentaux à la réparation.
Et là, lithothérapie, en tout cas les pierres, les minéraux, peuvent justement apporter cette aide à la réparation du corps?
Tout à fait. Donc on peut bien évidemment avoir un apport d'éléments atomiques donc par la nourriture,
oui.
Puisque nous mangeons pour manger des atomes.
Voilà.
Donc je reviens sur la notion de métaux, non-métaux,
oui.
Et nous mangeons surtout pour manger les métaux. C'est-à-dire que nous mangeons des aliments pour manger du fer, pour manger du
oui,
cuivre,
d'accord.
Pour manger du calcium, etc. etc.
Oui.
Et même si ces métaux sont en quantité infinitésimale, n'empêche qu'ils sont primordiaux pour le fonctionnement de nos métabolismes. Donc évidemment, on peut privilégier certains aliments, et puis on peut aussi avoir une absorption de ces métaux par les pierres, puisque les pierres sont surtout composées de métaux.
Donc en fait, vous allez identifier à partir de la problématique que vous avez comprise. On va remonter pour essayer de trouver la cause de la problématique, et vous allez vous trouver les réponses minérales pour résoudre ce problème-là, soit en apportant les métaux qui manquaient, soit justement en enlevant ceux qui étaient là en trop, c'est ça?
Voilà. Alors la démarche événementielle, c'est vraiment pour que la personne comprenne. Parce que c'est très
pour vous,
important
c'est important que la personne comprenne, qu'elle fasse cette démarche intellectuelle-là de
oui,
compréhension.
Ça va lui donner un sens. Parce qu'aujourd'hui, la médecine ne s'intéresse pas à cette dimension. Et en fait, expliquer
non,
simplement
ouais.
que bah, une personne peut avoir des problèmes de vue suite à une émotion, ou peut devenir diabétique, ou peut déclencher une spondylarthrite, par exemple,
ouais.
suite à une émotion. Alors après, cette personne peut aussi, à partir de cette compréhension, peut pratiquer des disciplines qui vont être plus en lien avec l'émotionnel, je ne sais pas, de la sophrologie ou d'autres thérapies qui vont aussi l'aider à travailler et à décristalliser cette émotion.
Alors j'imagine que dans ces cas-là, plusieurs outils peuvent se compléter, mais justement, vous évoquez les médecins, je me demandais à quel moment dans leur parcours de soins arrivaient les personnes. C'est quoi? C'est quand on, par exemple, j'ai des tendinites à répétition, j'en peux plus, les médecins trouvent rien. À quel moment on vient vous voir dans un parcours médical?
Ah, c'est un peu.
C'est varié.
J'aurais tendance à dire que ils arrivent un peu par accident. C'est souvent des rencontres de la vie où en fait.
D'accord.
Des personnes disent j'ai tout essayé. Je sais pas. Dernièrement, j'ai fait un salon. Où j'ai rencontré deux viticulteurs qui ont des tendinites à répétition dans le poignet et dans les épaules. Là, c'est vraiment en lien avec leur métier. Et donc, je leur ai expliqué des choses. Ils ont pu expérimenter en direct sur le salon. Et en l'espace de quelques minutes, ça les avait largement soulagés.
D'accord. Donc là, on est sur un cas où on peut assez vite résoudre et apporter des réponses. Mais quand on vous contacte, notamment sur des pathologies plus lourdes que vous évoquiez tout à l'heure, combien de temps va durer l'accompagnement? Combien de séances faut-il faire pour trouver? Alors, je schématise beaucoup, je caricature, mais combien de séances faut-il pour trouver les pierres qui vont apporter le mieux-être dont j'ai besoin?
En une seule séance.
D'accord, donc une seule consultation suffit à identifier, et donc en fait on repart avec notre ordonnance de pierre, je caricature encore une fois, mais c'est un peu ça l'idée?
Voilà, l'idée si vous voulez, à partir du moment où on a fait ce travail d'identification, voilà, donner un sens, parce que c'est aussi important de comprendre que les choses ne sont pas obligatoirement des fatalités, et ça c'est très très important, mais en France, dès qu'il nous arrive quelque chose, c'est de l'ordre de la fatalité, et surtout de reprendre de l'autonomie. C'est-à-dire dire, je peux faire des choses qui sont relativement simples. Alors évidemment, je ne sais pas si je prends un exemple un peu extrême, quelqu'un qui souffre d'arthrose, il a 80 ans, évidemment, ça ne va pas lui redonner ses articulations
oui,
de l'âge de 20
y a
ans.
Pas on est d'accord, il n'y a pas de miracle.
Voilà, par contre, il va déjà beaucoup moins souffrir. Et puis d'autre part, ça va avoir tendance à restimuler les tissus. Donc ce qui veut dire que eh ben, il va être soulagé. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment dans cette dynamique où simplement stopper des dysfonctionnements, des maladies, les stopper pour éviter qu'elles continuent d'évoluer et que le corps se dégrade. Et éventuellement, restimuler pour essayer de rembobiner. Que la matière, si vous voulez, se régénère.
Ce que j'entends dans votre approche, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous utilisez les pierres et les minéraux comme un outil, évidemment de mieux-être, mais aussi d'aider les personnes à devenir vraiment acteurs de leur santé.
Tout à fait, vous savez, tout le monde connaît les cataplasmes d'argile.
Oui.
Eh bien, l'argile, c'est de la lithothérapie.
Ah, ok, c'est
Puisque
aussi une
nous
forme.
faisons appel
Et oui.
à une ressource d'ordre minéral, donc je
Ouais.
vous rappelle que l'argile, c'est un aluminosilicate, c'est-à-dire que c'est de l'aluminium et du silicium. Donc, nous avons des comportements naturels qui vont dans cette démarche, c'est-à-dire,
C'est vrai.
voilà.
Qu'on considère comme les remèdes de grand-mère, quoi.
Et pourtant, c'est des choses qui traversent les siècles.
Et oui.
Le collier d'ambre pour les
Oui,
bébés qui perdent
pour
sans
les
dents,
dents.
c'est connu depuis des siècles, mais
Absolument.
c'est une explication scientifique. Les cures thermales. Les cures thermales qui sont pratiquées depuis l'Antiquité, où justement, nous, on se sert de l'eau, les éléments minéraux, donc qui sont le calcium, les bicarbonates, différents éléments qui sont des minéraux, qui sont véhiculés par l'eau, et on se sert de cette eau pour apporter des éléments à nos métabolismes. Donc aujourd'hui, il existe de la médecine thermale, donc c'est quelque chose qui est connu et reconnu, et ça traite un nombre de pathologies qui sont relativement élevées. Ce qui se passe, c'est que effectivement, les personnes vont en cure pendant 3 semaines. Donc, en général, la situation s'améliore.
Oui.
Il y a une certaine inertie pendant, on va dire, quelques semaines ou quelques
Ouais.
mois,
Et
et après,
hop.
on rechute. Et
Ouais.
ben, l'idée, c'est vraiment de proroger cette période.
Et oui, les pierres, les minéraux peuvent aider à continuer à bénéficier de ce bien-être-là qu'on a trouvé en cure thermale.
Tout à fait.
Donc en fait, là, on peut vous consulter sur tout type de problématiques. Vous, dans les cas que vous recevez tout type de sujets,
Que
l'arthrose, le
ce soit des
diabète.
problèmes de voilà, des problèmes d'articulation, des problèmes de peau, des migraines, en fait, si vous voulez, tous les métabolismes répondent à un fonctionnement minéral. Et cette simplification, en fait, cette lecture, en fait, on s'affranchit de toute la compréhension biochimique
Ouais.
qui est vraiment très, 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 très complexe. Mais si on apporte les éléments principalement métalliques au corps, les métabolismes vont avoir tendance à retourner vers un fonctionnement normal.
D'accord. Alors, ce qui m'amuse depuis le début de notre entretien, je vous écoute. Et alors, moi, je pensais qu'en évoquant la lithothérapie, on allait parler d'énergie, de choses comme ça, un peu invisibles, mais qui pourtant pourraient marcher. Et en fait, non, depuis tout à l'heure, on parle de silicium, de manganèse. C'est vraiment une approche là qui vous est propre. Est-ce que vous pouvez
Non.
m'expliquer votre point de vue par rapport à ça?
Alors effectivement, dans la lithothérapie, la lithothérapie la plus connue, en fait, c'est la lithothérapie énergétique.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va attribuer des vertus des pierres, des pouvoirs des pierres, sur des notions énergétiques. Notre démarche, en fait, est beaucoup plus basée sur le fait que les pierres sont en premier lieu de la matière,
Oui.
que cette matière, on sait la lire, puisqu'en fait, elle est composée d'atomes, et que ces atomes, bah, on peut s'en servir. C'est-à-dire que porter un collier en malachite, par exemple, qui est un
Oui.
carbonate de cuivre, eh ben, va nous apporter du cuivre.
D'accord. Donc en tout cas, on voit bien que vous êtes dans une démarche très scientifique des pierres et des minéraux et pas énergétique. Votre discours, il n'est pas de cet ordre-là.
Alors, une démarche scientifique et surtout pragmatique. C'est-à-dire
Ça,
que
c'est l'informaticien qui revient.
C'est-à-dire que l'important, c'est de définir le réel. Et que, autant dans l'énergétique, en fait, vous prenez 3 personnes, vous l'interrogez sur telle pierre, il peut avoir 3 compréhensions du pouvoir de cette pierre. En s'appuyant sur la matière et sur la chimie, qui est un outil qui est reconnu, le tableau Mendeleïev va avoir 150 ans l'année prochaine, qui n'a jamais été remis en question. Tout le monde peut reconnaître que cette pierre est composée de telle matière. Et donc, cette matière va être bénéfique pour notre fonctionnement et nos métabolismes.
D'accord. On a vu ce que votre approche des pierres et des minéraux pouvait apporter dans de nombreux cas de figure, mais vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'accompagner ces personnes qui vous consultent? Ça fait quoi, 4 ans
Alors,
maintenant que vous le faites?
voilà, ça fait 4-5 ans. Alors, ce que ça m'apporte, bah, c'est simplement essayer de reconnecter en fait les personnes à des choses simples.
Oui.
En fait, on vit dans un monde où tout est compliqué. L'informatique est compliquée, la finance est compliquée, la cuisine est compliquée, tout est compliqué. Et on nous a, entre guillemets, conditionnés pour dire que la santé était compliquée. Mais en fait, il faut simplement faire preuve de bon sens et simplement réexpliquer un certain nombre de clés, comme il est important de boire de l'eau, par exemple.
On
C'est
revient en fait à des choses fondamentales et comme vous disiez de bon sens, mais qu'on a besoin de réentendre pour arrêter de penser que c'est compliqué,
Oui,
c'est
mais
ça?
malgré tout, on se trouve confronté à justement au fait que souvent, on nous rétorque que si ce qu'on disait était vrai, ça se saurait. Et pourtant, c'est scientifique, c'est de l'ordre du concret et du réel.
Non seulement c'est scientifique, mais c'est aussi pragmatique, puisque vous avez ce recul-là maintenant, et j'imagine que dans les cas de personnes que vous accompagnez, vous pouvez constater les effets bénéfiques de l'intervention des pierres et des minéraux, du coup.
Tout à fait, puisque on a un recul de maintenant... de plusieurs années, d'exemples concrets,
c'est ça.
Avec des pathologies soit bénignes, voire plus chroniques et plus graves.
Et si je reviens du coup à ma question précédente sur qu'est-ce que vous y trouvez, j'ai l'impression que c'est une forme de transmission d'idées de bon sens, c'est ça?
L'idée, c'est vraiment d'amener les gens à retoucher du doigt des choses qui font partie de la connaissance collective. En fait, à l'ère d'aujourd'hui où on est à l'ère d'Internet, etc., on perd des quantités d'informations qui sont monumentales.
Et pourtant, on a l'impression d'avoir accès à un nombre d'informations incroyable, ce qui n'est pas faux non plus.
Mais... Ben voilà, mais on en perd aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on veut toujours aller vers la nouveauté et vers des choses qui sont hyper sophistiquées. C'est pour ça que dans le domaine de la santé, ils sortent des produits, des molécules, des choses, parce qu'il y a aussi une notion de commerce derrière. Et on veut toujours de la nouveauté, alors que les choses, la vie existe depuis des millions d'années et s'appuie toujours sur les mêmes lois.
Donc vous, vraiment aujourd'hui, ce qui vous fait continuer à faire ce métier, à l'aimer, c'est on sent ancré en vous cette envie de faire passer ces messages essentiels et de bon sens.
Oui, tout à fait. En fait, je veux dire, on se pose pas la question pourquoi on boit de l'eau.
Non, effectivement.
Et ben voilà, donc il y a un certain nombre de clés qui sont très très importantes et qui nous maintiennent en vie et qui ne posent pas la question pourquoi on respire. Donc il y a tout un ensemble de clés chimiques qui permettent de stimuler le système nerveux, de stimuler le système hormonal, de stimuler les articulations, etc. Ou toute la dimension psychosomatique aussi.
Ouais.
Puisqu'il y a beaucoup de disciplines qui s'occupent des somatisations, mais en fait ce qui est important de comprendre, c'est que s'il y a un désordre dans la matière, ça veut dire qu'il y a un désordre de la chimie. Et si j'ai des plaques d'eczéma, ou si j'ai des psoriasis, ou si j'ai différents désordres qui sont en lien avec les somatisations, et donc de soutenir le corps dans la matière. Tout à fait.
Très bien. Pour finir, j'ai quelques questions rituelles à vous poser. La première, j'aimerais savoir s'il y a un livre qui vous inspire particulièrement.
Alors, je suis un très 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 mauvais lecteur.
Ah, vous ne lisez pas?
Je ne lis pas.
Bon.
Ou vraiment des choses sporadiques, etc. Ou alors des documents scientifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le livre de la vie.
D'accord, pourquoi pas?
Parce que justement, on a chacun notre livre individuel, mais
ouais.
Il y a aussi un livre collectif. Et c'est ce livre-là qui est intéressant. Moi, je suis beaucoup plus sur une dimension de transmission orale, où il y a beaucoup de choses qui passent.
Ok, bon. C'est une réponse originale, mais elle fonctionne aussi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je voulais aussi vous demander si vous avez un rituel bien-être quotidien.
Un rituel bien-être quotidien. Très souvent, quand je me réveille et que j'ouvre les yeux, je remercie la vie.
Vous consacrez ce premier moment de la journée à la gratitude.
En disant « chouette, je suis en vie ».
Est-ce que vous pouvez me citer trois mots synonymes de bonheur?
Alors, ça va être une réponse aussi originale, parce que je pense que le bonheur est un leurre. La recherche du bonheur, en fait, vous savez, on connaît tous ça. C'est-à-dire que quand on a des inspirations, quand on est jeune, qu'on veut créer une famille, on veut une maison, on veut une voiture, on veut un niveau social, etc. Et puis, étrangement, il y a un grand nombre de populations, quand on a tout ça, quand on a tout ça, au bout d'un moment, on s'ennuie. Donc, je pense personnellement que le bonheur est un leurre.
Mais le bonheur peut avoir d'autres formes que juste cette image-là.
Alors, le bonheur de l'instant présent.
Et ça, c'est une jolie réponse, originale aussi, mais qui fonctionne. Et du coup, est-ce que vous, Marc, vous êtes heureux?
Oui, je vis dans une forme de béatitude, dans le remerciement, la gratitude de la vie. Alors, de la vie, soit à travers les rencontres,
ouais.
Et puis tous les instants présents, ça peut être dans mon jardin, quand il y a des fleurs qui commencent à pousser au printemps, etc. En fait, cet émerveillement par rapport à la puissance de la vie.
Ouais.
Et la puissance aussi des différents mondes, aussi bien minéral, avec la beauté des minéraux. C'est vrai que je suis effectivement aussi un passionné des minéraux. Le monde végétal que je découvre depuis quelques années, depuis que j'habite à la campagne, c'est avant j'habitais en pleine agglomération. Mais quand je vois la puissance du végétal, c'est assez impressionnant. Et puis aussi, toute la dimension et la merveille du monde animal, et puis de l'humanité, puisque en fait, il y a une diversité, même si il peut y avoir des périodes un peu délicates. L'important, c'est, je pense que c'est l'évolution. Comme toute évolution, il y a des moments, il y a des périodes plus ou moins agréables. Et puis redonner le pouvoir, mais le pouvoir au sens spirituel, le pouvoir sur la vie, sur nos vies, sur notre santé.
Bon, Marc, vous qui êtes dans la gratitude, écoutez, c'est à moi maintenant de vous remercier pour cet entretien. Ça a été très éclairant, ça nous a emmené sur des chemins auxquels moi je m'attendais pas. On est resté sur des choses finalement très scientifiques pour ramener l'approche de la lithothérapie à quelque chose de très pragmatique. Donc merci pour cet échange et à bientôt alors. Merci.
Merci à vous.
La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serai ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.